Le procès de Dubosc. La nouvelle de l'arrestation de Dubosc se répandit dès le lendemain matin dans Paris avec la rapidité de l'éclair. Et cette fois, rien ne fut négligé, non seulement pour rendre impossible toute tentative d'évasion, mais encore pour arriver au jugement de ce misérable dont la personnalité devait, disait-on, faire éclater l'innocence de l'usure. Cette affaire occupait alors à un moindre degré l'opinion publique, mais l'incident important qui venait de se produire allait avoir pour effet de raviver la question et de réveiller les passions qui s'y étaient naguère attachées. D'ailleurs, depuis qu'il s'entretenait de l'usure, on s'était beaucoup occupé de Dubosc. La renommée avait raconté tous ses exploits, ses évasions qui tenaient du miracle, ces entreprises invraisemblables à force d'audace, et chacun se promit bien de ne pas laisser échapper cette occasion de connaître un pareil scélérat. L'affaire de Dubosc était mauvaise, et il était peu probable que cette fois il parvint à se tirer de la prison où on l'avait enfermé. Déjà le procès s'instruisait, et les magistrats, incités par la veuve Lezurk, dont Dubosc était le dernier espoir, les magistrats faisaient toute diligence pour que l'instruction fût poursuivie sans le moindre délai. Malgré tout ce qui s'était passé lors des procès de Durocha et de Vidal, en dépit des faits acquis à la suite des confrontations qui avaient eu lieu à cette époque, tout le monde sentait la nécessité d'entrer dans un examen encore plus approfondi de l'affaire et d'appeler une bonne fois toute lumière sur des faits qui, après tout, présentait toujours certains côtés obscurs. Les magistrats qui, en l'an 5 et en l'an 6, avaient rédigé les actes d'accusation contre Dubosc, en avaient été frappés eux-mêmes, et ils exprimèrent le vœu qu'en jugeant Dubosc, on prit toutes les mesures propres à découvrir la vérité en ce qui concernait l'usurc. C'est dans ces conditions et sous l'empire de ces dispositions que l'on arriva au débat et que le procès s'ouvrit. On était au 28 frimaire en 9. Une foule compacte se pressait dans la salle. On y remarquait bon nombre de magistrats, quelques-uns des témoins de l'an 4, le citoyen Legrand, un cousin de l'usurc, le sieur d'Aubenton, ex-juge de paix, maître Caille, représentant de la veuve, et la veuve elle-même, vêtue de longs habits de deuil, et dont la présence ne devait pas être sans influence sur les juges et sur les jurés. C'était donc bien plus encore en faveur de l'usurc que contre Dubosc même que les débats allaient s'ouvrir. Dans la première séance, dit M. Zangiacomi, on commença par entendre les témoins contre Dubosc. L'instruction fut d'abord dirigée contre lui. On vint ensuite à l'usurc. Le ministère public, représenté par M. Giraudet, propose de faire entendre les témoins qui, en l'an 4, avaient déposé en faveur de ce condamné. Le défenseur de Dubosc s'y oppose. Cette opposition est rejetée. On entend les témoins, on discute sur l'alibi. À la séance du lendemain, 29, le ministère public fit paraître les témoins qui, en l'an 4 et postérieurement en l'an 5 et en l'an 6, avaient déposé contre l'usurc. On les interpelle là de s'expliquer sur les faits. Ils persistèrent dans leur déposition précédente. Les déclarations des deux condamnés, Couriol et Durocha, en faveur de l'usurc, étaient si précises que l'on pouvait croire qu'elles feraient vaciller les témoins qui en entendrait la lecture. Le ministère public demande que cette lecture soit faite. Nouvelle opposition du défenseur de Dubosc. Mais sans égard à cette opposition, les déclarations sont lues et aucun témoin ne se rétracte. On ne pensa pas que cette épreuve fût suffisante. On ne cessait de dire que les témoins avaient confondu et confondaient encore l'usurc avec Dubosc, parce que le premier était blond et que l'autre avait, le jour de l'assassinat, une perruque blonde. ont voulu qu'il ne restât dans les esprits aucun doute sur ce point, et il fut arrêté qu'à la séance du lendemain 30, les témoins seraient de nouveau entendus en présence de Dubosc, coiffé d'une perruque blonde, et devant un portrait de Lesurque que sa femme avait déposé à cet effet au greffe. Les détails de cette dernière et décisive confrontation sont ainsi exposés dans le procès-verbal des débats sous la date du 30. Les témoins, qui, lors des débats de l'affaire jugée à Paris contre Lesurque en l'an 4, avaient déclaré, pendant l'audience du jour d'hier, persister dans ce qu'ils avaient dit relativement à Lesurque, lors des débats qui ont précédé sa condamnation, ces témoins sont successivement introduits devant les jurés depuis que la perruque blonde a été posée sur la tête de Dubosc. Le président présente à plusieurs d'entre eux le tableau en miniature remis au greffe comme portrait de Lesurque. Tous les témoins, à l'exception de la femme Alfroy, déclarent persister dans leur déclaration. Quelques-uns d'entre eux, observant qu'il peut avoir existé dans les masses, les aspects des deux individus, Lesurque et Dubosc, quelques rapports généraux, mais que, dans les détails et dans les traits de leur figure, ils ne trouvent aucune ressemblance qui puisse les induire à penser qu'ils ont commis une erreur. La femme Alfroy déclare que, devant le tribunal de la Seine, en l'an 4, elle a reconnu Lesurque, mais qu'aujourd'hui sa conscience lui fait un devoir de dire qu'elle s'est trompée, qu'elle croit fermement qu'elle n'a pas vu Lesurque mais Dubosc et qu'elle le reconnaît bien. Le président fait à la femme Alfroy plusieurs observations sur l'importance de la déclaration qu'elle vient de faire. Elle paraît agitée, regarde longtemps Dubosc en gardant le silence et persiste dans sa dernière déclaration. Pendant que l'on soumettait ainsi à l'examen attentif minutieux des témoins, quelle était cependant l'attitude de Dubosc? Chose étrange, cet homme qui avait étonné si longtemps l'opinion publique, ce bandit audacieux dont les exploits défrayaient les récits des bagnes, et semblait devoir défier toutes les polices, calme, modéré, soumis maintenant, écoutait avec un ironique sourire toutes les charges dont on cherchait à l'accabler, et ne tentait même pas de se disculper. On eût dit qu'il avait accepté d'avance le sort qui lui était réservé, et qu'il était résigné, dès ce moment, à subir la sentence de mort qui devait probablement sortir de ces sinistres débats. Incident d'audience. Dubosc avait affaire à un défenseur qui ne l'abandonna pas à ce découragement apparent et sut tirer parti de la position qui lui était faite. « Et quoi ? » dit-il avec chaleur au juré. « N'y a-t-il pas eu une condamnation contre Lesurque ? Comptez-vous attaquer ce jugement qui nous ouvre ? Voudriez-vous discuter un indiscutable verdict ? Ce verdict du jury fait foi aujourd'hui et est placé hors de vos atteintes. » Tout s'est passé dans la conviction et dans la conscience des jurés. Vous ne pouvez frapper deux têtes pour le même crime, rappelez-vous. Parmi les quatre individus vus à Montgeron et à Lieu-Saint, le huit Floréal, un seul avait les cheveux blonds. Un seul a demandé du fil pour accommoder la chaînette de son éperon. Eh bien, cet individu blond qui a demandé du fil, qui s'est promené avec Vidal, c'est Lesurque. Lesurque le coupable, Lesurque l'assassin qui a été condamné. Sa condamnation acquit fort de choses jugées. Elle serait inconciliable avec une condamnation nouvelle. Le défenseur avait raison, et il indiquait là un moyen dont les amis de Lesurque devaient faire usage plus tard. L'inconciliabilité des deux arrêts. Quoi qu'il en soit, et quelle que fût l'ardeur déployée par le défenseur de Dubosc, il était évident que, dès le commencement des débats, la cause de son client était perdue. Qui pouvait s'intéresser à cet homme que toutes les prisons de France avaient connu, qui avait épouvanté les provinces par des cris multipliés, dont rien n'avait lassé l'audace et qui avait foulé aux pieds toutes les lois? Juges, jurés, spectateurs, tout était contre Dubosc. Ou pour mieux dire, nul ne songeait précisément à lui. L'intérêt s'était encore une fois concentré tout entier sur le Zurk, dont on s'évertuait à réhabiliter la mémoire. C'est le procès de ce dernier que l'on instruisait à nouveau, bien plutôt que celui de Dubosc, et il fallait que la conviction des témoins fût bien profonde pour n'être pas ébranlé par ces témoignages de sympathie que l'on prodiguait à un condamné. La malheureuse veuve est là, cependant. Elle assiste à ces douloureux débats, anxieuse, pâle, vêtue de sombres habits de deuil. Elle tend vers eux ses mains suppliantes, elle les regarde avec les yeux pleins de larmes. Ils savent qu'il y a derrière cet infortuné de pauvres enfants voués à l'opprobre et à la misère, et qu'ils peuvent sauver d'un mot. Une hésitation seulement, et la cause du supplicié est gagnée. Chose étrange, ces témoins, ces hommes, détournent avec émotion leurs regards et leurs pensées de ce tableau déchirant, et ils persistent dans leurs déclarations. Leur cœur saigna sans aucun doute, mais il est des devoirs supérieurs à toutes les sympathies, et ils n'obéissaient qu'à leur conscience. Comme l'a dit très nettement M. Giraudet, un magistrat éminent, il a été vérifié, autant qu'il a été possible de le faire, que cette confusion de personnes, seul moyen produit en faveur de l'usurc, n'avait point existé. Toutes les précautions prises ont amené des résultats évidemment contraires à l'usurc. Nous disions plus haut que nul ne songeait précisément à Dubosc. Nous nous trompions. Dans cette salle d'audience, au milieu de cette foule composée d'éléments si divers, il y avait, non loin de Dubosc, sur la bande des accusés, un être qui n'avait de pensée, de regard, d'attention que pour lui. C'était Claudine. Son attitude avait quelque chose de heurté et de farouche. Bon, elle ne parlait pas, elle ne versait pas une larme, elle écoutait. Toutes les fois qu'une accusation nouvelle s'élevait contre Dubosc, elle éprouvait comme une secousse convulsive, elle mordait ses lèvres ou tordait ses mains avec une violence mal contenue. Quand le président ou maître Caille cherchait à rejeter sur Dubosc des faits naguère acquis à la chambre de l'usurc, un grondement menaçant soulevait sa poitrine et son regard d'hyène bondissante jusqu'à la veuve, comme sur une proie offerte à sa haine. Jamais ne s'était senti dans le cœur tant de colère et tant de ressentiment. Il faut tout dire aussi. Depuis que Dubosc avait été arrêté, c'était la première fois qu'elle le revoyait. Jusqu'au dernier moment, elle avait espéré qu'il parviendrait à s'évader. Et c'est avec stupeur qu'elle vit le jour des débats arriver, sans qu'il eût rien tenté pour se soustraire à la justice. Elle ne comprit pas bien ce qui avait dû se passer. Candide ne pouvait admettre qu'il eût pu être empêché par la surveillance incessante qu'on avait organisée autour de lui. Elle crut tout de suite à une autre cause et son cœur se déchira. Dubosc ne lui pardonnait pas sans doute de l'avoir livré à ses ennemis en une heure d'égarement et de folie. Quand elle le revit au tribunal criminel, son regard imprégné de repentir et d'amour chercha avidement celui de Dubosc, mais ce dernier affecta de détourner le sien. La malheureuse étouffa un sanglot et pensa mourir. Elle n'avait plus que cet amour au monde, et cet amour même l'abandonnait. Mais ce n'était rien encore auprès de ce que l'avenir lui réservait. Et que dut-elle devenir quand le tribunal criminel prononça le fatal arrêt? Après l'arrêt. Voici le texte de l'arrêt. Jean-Guillaume Dubosc, dit André, était déclaré non convaincu d'avoir aidé et assisté volontairement les auteurs des assassinats du courrier Escoffon et du pastillon Audebert. Convaincu d'avoir aidé et assisté les auteurs d'un vol commis sur un grand chemin, avec préméditation en employant des armes meurtrières. Anne-Claude ou Claudine Barrière, dite Prince, se disant femme du Bosc, était déclarée convaincue de recel des 10 objets volés. En conséquence, Claudine fut condamnée à 25 années de réclusion et du Bosc à la peine de mort. Le misérable couple avait déjà subi bien des flétrissures, mais jamais les condamnations qui les avaient frappées ne s'étaient produites dans de pareilles circonstances. Dubosc écouta à peine la sentence redoutable. Quant à Claudine, elle s'affaissa inanimée sur son banc d'infamie et on fut obligé de la porter dans sa cellule. Quelques biographes de Dubosc ont dit que ce bandit ne s'était pas pourvu en cassation et ils ont cru trouver dans cette détermination une preuve manifeste que le misérable s'avouait vaincu dans sa lutte avec la justice et la société. Le fait seul est vrai. L'explication est de tous points erronée. Dubosc n'était pas vaincu, il n'était que l'art de la vie. Et qu'on nous permette de donner un dernier trait à la physionomie de ce scélérat, qui est bien un des types les plus curieux que fournisse l'histoire des anciens bagnes. Dubosc était une nature brutale et violente, avide de jouissances sensuelles, sans notion du bien et du mal, et ne demandant à la vie que la satisfaction de ses appétits grossiers. De pareils hommes sont dangereux. La société a raison de s'armer contre eux, et quand ils disparaissent un jour, brusquement rayés par la main du bourreau, nul ne songe à les regretter ni à les plaindre. Mais il faut être juste envers tout le monde. Le droit à la justice est peut-être le seul qu'on ne puisse contester à ces monstrueuses exceptions. Dubosc était un misérable de la pire espèce. 20 fois il avait mérité l'échafaud. Il avait 1000 défauts et bien des vices. Mais il était entier, et jamais la crainte n'entama ce caractère fait d'audace et d'insouciance. Il pouvait de lui-même consentir à cesser la lutte qu'il avait entreprise, mais il ne devait jamais s'avouer vaincu. D'ailleurs, il était jeune encore, 36 ans à peine. Il était robuste dans toute la plénitude de sa force, dans tout le développement de ses facultés. On ne renonce pas à la vie dans de pareilles conditions. Et si Dubosc refuse de se pourvoir contre l'arrêt qui le condamnait à la peine de mort, c'est qu'il fut poussé à cette résolution par une cause mystérieuse qui a échappé à ses biographes. Et cette cause, nos lecteurs la connaissent comme nous à cette heure. C'était Claudine. Depuis 10 années qu'il vivait avec cette femme, Dubosc avait concentré sur elle tout ce que son cœur pouvait contenir d'amour et de dévouement. Il n'avait pas d'autre pensée. Il ne voulut jamais chercher d'autre avenir. Ce que certaines âmes droites et pures cherchent souvent en vain dans la vie honnête, il l'avait trouvé, lui, dans la vie criminelle. Un ami sûr, d'un autre sexe que le sien. C'était sans doute une erreur du hasard, mais il en avait profité, il s'était attaché à cette passion comme à la seule chance de bonheur qu'il eût rencontrée. Il s'y était donné tout entier et n'en avait distrait aucune part de son être, si minime qu'elle fût. Aussi, quand la trahison se mit entière dans ce couple étrange, quand le soupçon pénétra dans son esprit et vint troubler son cœur, toutes ses facultés furent ébranlées à la fois, et le doute lui inspira les premières terreurs qu'il eût jamais éprouvées. L'action de Claudine lui semblait inexplicable. Il n'en cherchait pas la signification dans son amour maternel, qu'il ne comprenait pas. Il n'avait qu'une pensée, une seule, c'est que Claudine ne m'aimait plus, qu'elle se séparait de lui, qu'une autre affection avait remplacé celle que lui avait vouée la guerre. Il vit un abîme entre elle et lui, abîme profond, infranchissable, qu'il voulut regarder un moment et qui lui donna le vertige. Il ne crut pas en sûreté derrière ce sentiment dans lequel il s'était réfugié et où il se croyait inexpugnable, Et comme il avait fait de ce sentiment le mobile de sa vie passée, il redouta de s'aventurer seul dans l'avenir incertain qui allait ouvrir devant lui au lendemain de la trahison. Et c'est alors, mais alors seulement, qu'il se résigna à mourir. Quant à Claudine, ce qui se passait à cette heure dans son esprit est bien difficile à expliquer. On l'avait rapportée mourante dans sa cellule. Elle ne savait pas même quelle peine lui avait été infligée. Elle ne se rappelait qu'une chose, qu'un détail, c'est que Dubosc était condamné à la peine de mort. Quand elle revint à elle et qu'elle rouvrit les yeux, elle aperçut une sœur assise à son chevet. Le sentiment de la réalité la reprit à l'instant même et elle fendit en sanglots. « Calmez-vous, pauvre femme !» murmura doucement la sœur. Claudine secoua énergiquement la tête. « Que je me calme ?»« Vous voulez que je me calme ?» répliqua-t-elle avec violence. « Mais vous ne savez donc pas qu'il est condamné ?» Qu'il va mourir, que dans 3 jours peut-être il me faudra renoncer à le revoir jamais. C'est horrible, horrible. La sœur la regarda un moment avec une muette pitié. On eût dit qu'un secret était sur ses lèvres et qu'elle n'osait le laisser échapper. Chapitre 1. Les deux cellules. Claudine s'apercevit de l'embarras de la sœur et le soupçonna un nouveau malheur. Elle lui prit familièrement les mains. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Comme vous voilà pâle et émue, vous savez quelque chose. Vous l'avez vu peut-être, il vous a parlé. Moi ? Et pourquoi pas ? Dites-moi toute la vérité, je suis courageuse. Je ne vous en voudrais pas. Voyons, que dit-on de lui ? Hier, au sortir de la prise du tribunal, on l'a conduit dans la prison. » Il n'a pas tenté de s'évader puisque je suis encore ici. Car malgré l'indifférence qu'il n'a cessé de me témoigner pendant tout le cours des débats, il m'aime encore, j'en suis sûr. À cette heure même, il pense à moi comme je pense à lui. Oh, ne rien savoir, ne rien savoir. Et que voudrez-vous donc apprendre? Mais tout ce qu'il fait, ce qu'il dit... Je n'ai pas d'autre préoccupation à présent. Tenez, j'avais un enfant, une pauvre et douce créature que Dieu m'avait donnée et qu'il m'a reprise. Il est mort. Eh bien, je ne pense plus à lui. C'est Dubosc qui m'occupe tout entière. Oh, si je pouvais le voir. N'y songez-vous. Mais je ne songe qu'à cela. Il faudrait qu'il demandât à vous voir. Et c'est ce qu'il aurait déjà fait, n'en doutez pas, s'il n'avait pas d'autres idées. Quelles idées? Celles de s'évader, d'abord. La sœur remua la tête en signe d'incrédulité. N'en croyez rien, répondit-elle doucement. Il ne faudrait pas vous verser de pareilles illusions. Pourquoi cela? L'arrêt doit être exécuté le 25. Mais il y a pourvoir. Non, Dubosc a refusé. Qui vous l'a dit? Je le sais. Mais il est perdu, alors. Claudine se leva en poussant un cri et se mit à parcourir l'étroite cellule avec des mouvements heurtés. « Il faut qu'il me haïsse bien profondément, disait-elle d'un ton saccadé. Il faut qu'il ne reste plus rien dans son cœur des souvenirs de notre passé pour qu'il en soit résolu ainsi à mourir. » Sans chercher même à me revoir et à me pardonner. Oh, je l'aimais mieux que cela. En parlant ainsi, la malheureuse tordait ses cheveux sous ses doigts crispés, comprimait sa poitrine de ses deux bras et promenait autour d'elle des regards farouches. J'ai été bien lâche aussi, continua-t-elle d'un ton violent. J'aurais dû me tuer plutôt que de commettre une pareille infamie, une si épouvantable trahison. Si je pouvais le voir. Mais c'est impossible. Ne dites pas cela. On ne vous le permettra pas. À moi, non, parce que je suis une créature méprisable et vile, mais si vous vouliez... Moi? Oh, tenez, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous avez toujours été vertueuse, vous, on vous écoutera. Vous obtiendrez facilement ce que vous demanderez. Faites cela pour moi, ma sœur. Tenez, si on me refuse, je le sens bien, on me poussera à bout. Je ferai quelques mauvaises actions. Je tuerai quelqu'un. Paisez-vous. J'ai tort, ne m'écoutez pas. Vous avez raison, mais je veux le voir. On ne peut pas refuser une pareille demande à une pauvre femme. Si j'avais mon enfant encore, on pourrait être cruel envers moi. Mais songez donc, tout me manque à la fois. Le pauvre petit est dans la terre à présent, et demain je serai seule, toute seule. Vous n'avez jamais été ni épouse ni mère, mais vous êtes femme. Eh bien, ayez pitié. Je ne réponds plus de moi, voyez-vous. Mais quel moyen ? Vous consentez ? Oui, si je puis réussir. Ah, vous êtes bonne, et je vous aime, et Dieu vous récompensera pour cette bonne action. Claudine prit les mains de la sœur et les baisa avec une ivresse folle, comme si elle venait d'obtenir la liberté de Dubosc et la sienne. Pendant que cette scène se passait de ce côté, Dubosc était étroitement gardé à vue dans la prison où on l'avait conduit. Il n'ignorait rien du sort qui l'attendait. On était au 23 décembre de l'année 1800 et son exécution devait avoir lieu le 25. Il n'avait plus que 2 jours à vivre. Son avocat était venu le prier de signer un pourvoi et il avait repoussé son avocat, disant qu'il n'avait que faire de la clémence des hommes. Un prêtre avait tenté ensuite de le réconcilier avec le ciel, et il avait repoussé le prêtre. Il était sombre, farouche, résolu. Prêt à quitter ce monde, le misérable ne doutait même pas qu'il pût y en avoir un autre. Digne fin d'une si méprisable existence. Il était donc seul dans sa froide cellule, assis dans un angle obscur, le coude sur une table, le front dans les mains. À quoi pensait-il? Quels rêves sinistres peuvent ainsi venir visiter à la dernière heure le cachot des condamnés? Revoit-il les crimes dont le sang a attaché leurs mains criminelles? Entend-il cette voix terrible de la conscience que rien ne saurait étouffer? Quels cris s'élèvent autour d'eux? Quels fantômes passent devant leur regard terrifié? Bon, Dubosc ne songeait rien de tout cela. Seulement, si à cette heure fatale, un étonnement s'éveillait dans son esprit, c'est qu'il se rappelait qu'il avait été abandonné et trahi par le seul être qu'il eût aimé en ce monde, et qu'il se voyait contraint de douter de la seule chose à laquelle il se fût attaché dans la vie. L'amour de Claudine. La nuit allait venir, tout bruit avait cessé autour de lui, il n'entendait que le pas de la sentinelle qui veillait à sa porte. En ce moment, il dressa la tête et prêta l'oreille. Des pas glissaient dans le corridor, une clé tourna bientôt dans la serrure et enfin la porte s'ouvrit. Une femme entra, c'était Claudine. La porte s'était refermée derrière elle. Il se trouvait seul. Chapitre 57. Une lueur d'espoir. Dubosc eut un moment d'hésitation. Claudine avait fait quelques pas vers lui. Elle s'était laissée tomber à genoux et avait joint les mains. « Guillaume !» dit-elle d'un accent brisé. « J'ai demandé à te voir. » On a bien voulu accéder à ma prière et l'on m'accorde quelques minutes. Dubosc garda le silence. Guillaume, reprit Claudine en étouffant un sanglot, tu ne m'en veux pas d'avoir fait cette démarche, n'est-ce pas? C'était naturel. Nous ne pouvions nous quitter ainsi, d'autant plus qu'on m'a appris une chose épouvantable. Quoi donc? Fit Dubosc d'un bond brusque. On dit que c'est... « Pour après-demain. »« Eh bien, c'est donc vrai ?»« Parbleu, j'ai été trahi le 10, condamné le 21 Elle sera exécutée le 25. Claudine fondit en larmes. Horrible, horrible, balbutia-t-elle, en cachant son front dans ses mains. Et qu'y a-t-il là qui doivent te surprendre? Poursuivit Dubosc avec amertume. N'est-ce pas toi qui as donné mon adresse? N'est-ce pas toi qui m'as livré? Réponds. Oui, Guillaume, mon Dieu, j'étais folle à ce moment. Tu te souviens, il y avait notre enfant. Tu m'as vendu pour le sauver. Me sauver? Mais tu n'as donc rien su? Tu n'as donc rien appris? Que veux-tu dire? Que ma trahison a été inutile? Comment? Quand je suis arrivé, tout était fini. Il est mort? Oui, mort. Comprends-tu, Guillaume? Je l'avais vu à peine, mais si tu savais comme je l'aimais. Et maintenant, plus rien. Me voilà toute seule. Il ne me reste plus que toi. Moi? Oh, tu m'en veux, je le sais bien. À ta place, j'aurais éprouvé la même colère. Mais au fond, tu m'aimes toujours, j'en suis certaine. Et qu'importe, puisque je vais mourir. Mais qui a dit cela? Mais n'ai-je pas refusé de me pourvoir? On me l'a dit. Je ne voulais pas le croire. Cela est pourtant. Mais il est temps encore. Non, le délai est passé. Alors il ne se reste plus qu'une chance. Laquelle? L'évasion. Dubosc haussa les épaules et se mit à parcourir la cellule avec agitation. Il y a un mois, dit-il d'une voix ardente, il ne m'aurait pas gardé 2 jours dans cette prison, dont les murs pèsent sur ma poitrine et où j'étouffe. Mais aujourd'hui, j'ai renoncé. Je suis résolu à mourir. Mais c'est insensé. Tant que nous avons vécu à deux, l'un près de l'autre, partageant fraternellement nos joies et nos douleurs, j'aurais fait tout au monde et rien ne m'eût arrêté, mais depuis que nous sommes séparés, depuis que tu m'as trompé, Guillaume, oh, nous avons été heureux ensemble, Claudine, et dans ces belles et jeunes années que nous ne reverrons plus, il y a bien des souvenirs pour lesquels je donnerais ma vie entière, si elle pouvait être encore prolongée. Mais ne peuvent-elles pas revenir, ces années de confiance et d'amour? Trop tard, trop tard. Mais tu veux donc que je meure de désespoir et de honte, sans emporter la consolation de croire que tu m'as pardonné? Oh, il faut que tu me laisses bien pour être à ce point cruel et à un pareil moment. Claudine, eh bien, soit. Je vais me retirer. Je n'essaierai plus de te fléchir, ni de t'attendrir au souvenir de notre tendresse passée. Adieu, Guillaume. Je pars le cœur brisé. Je ne survivrai pas à ton indifférence et à ton mépris. Et je ne demande qu'une chose, c'est que tu ne te repentes pas de m'avoir repoussé quand j'implorerai humblement le pardon d'une heure d'égarement et d'oubli. Adieu. Adieu. Claudine s'était relevée et elle gagnait la porte. Mais sa démarche était si accablée, le ton dont elle venait de prononcer ses dernières paroles témoignait d'un tel déchirement que Dubosc se sentit ému plus qu'il ne l'avait jamais été. Et qu'au moment où elle allait atteindre la porte, il jeta un cri qui l'arrêta tout court. « Tu m'appelles ?» dit Claudine en se retournant, avec un regard inquiet et troublé, comme si elle eût douté de son bonheur. Pour toute réponse, Dubosc lui ouvrit ses bras, dans lesquels elle courut se réfugier avec des paroles enivrées. « Oh, merci, merci » dit-elle, presque folle. « Mon Dieu, je ne rêve pas, je suis bien éveillée, c'est bien toi !»« Oui, oui, enfant !» répondit Dubosc en souriant. « Tu me pardonnes ?»« Oui !»« Tu ne m'en veux plus ?»« Jamais !»« Tu m'aimes encore ?» Toujours, oui, toujours. Claudine roula sa tête éperdue sur la poitrine du condamné, et pendant quelques secondes, ce fut un murmure de douces paroles entrecoupées de soupirs et de baisers. Mais la jeune femme ne s'oublia pas longtemps dans les ivresses du pardon, et presque aussitôt elle releva le front. « Maintenant, » dit-elle à voix rapide et basse, « maintenant, tu ne refuses plus de vivre, n'est-ce pas ? Quelle idée ! Il faut fuir. Non, impossible. Mais rien n'est impossible, puisque tu as pu me pardonner. Mais par quel moyen ? On me sert de près. La surveillance est active. On ne me quittera que lorsque je monterai à l'échafaud. Tais-toi, tais-toi. Ne parle pas ainsi. Moi, j'ai trouvé un moyen. Quel est-il ? Je te le dirai. Mais quand cela ? Chut ! Claudine mit un doigt sur ses lèvres. Le guichetier de la prison venait de pénétrer dans la cellule. Elle ne put en dire davantage et ne tarda pas à s'éloigner comme elle était venue, c'est-à-dire en compagnie d'un gardien. Chapitre 58. Le geôlier. Les condamnés à la réclusion et aux travaux forcés à perpétuité ou à temps devaient, avant de subir leur peine, être attachés au carcan. Mémoire des Sansons, édition décembre à Launier. Or, Claudine Barrière avait été condamnée à 24 ans de réclusion, et cette condamnation entraînait forcément pour elle la peine de l'exposition publique sur une des places de Versailles. La Révolution française avait déjà battu en brèche bien des coutumes barbares, mais il restait bien des institutions à faire disparaître que soutenaient et préconisaient les cruels préjugés du Moyen-Âge. Le carcan rappelait un peu de choses près l'antique châtiment du pilori auquel il avait été substitué en l'année 1719. Le pilori était un poteau ou pilier où l'on attachait habituellement les criminels en digne d'infamie. À Paris, il était situé aux Halles. C'était une tour octogone avec un rez-de-chaussée et un seul étage au-dessus. Le coupable était exposé pendant 3 jours de marché consécutif. Au moment où cette peine infamante disparut de notre code, elle consistait à être attachée à un collier de fer appendu à un poteau sur la place publique, à y être exposée au regard du peuple pendant 1 heure, et à avoir au-dessus de sa tête un écriteau portant en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile et la classe de sa condamnation. Articles 22 et 24. Le carcan était donc à proprement parler un cercle de fer à l'aide duquel le bourreau attachait par le cou celui qui était convaincu de crimes ou délits. Le condamné était conduit à pied, les deux mains attachées derrière la charrette de l'exécuteur ou liée derrière le dos, puis arrivé sur le lieu de l'exposition, on faisait entrer le cou du patient dans le collier que l'on fermait avec un cadenas. Claudine connaissait ce supplice pour l'avoir subi déjà une fois, mais à ce moment, elle ne pensait guère à l'horreur d'un pareil châtiment. Elle ne pensait qu'à Dubosc, et une idée lui était venue. Un jour et 2 nuits la séparaient du moment fatal de l'exécution, et elle voulait mettre à profit le peu de temps qui lui restait. Quand elle rentra dans sa cellule, au retour de son entrevue avec Dubosc, elle s'assit sur le bord de son lit et attendit tout en songeant. 1 heure se passa. Puis la porte de la prison s'ouvrit et un gardien entra. C'était l'heure où, chaque jour, il apportait à Claudine une cruche pleine d'eau à la place de la cruche vide qu'il remportait. Claudine n'avait point oublié ce détail, et quand le gardien eut déposé la cruche pleine et comme il se disposait à regagner la porte avec la cruche vide, elle l'appela d'une voix émue mais ferme. Le gardien se retourna. « Mon ami, dit Claudine, j'aurai quelques mots à vous dire. Vous est-il interdit de me parler ?»« Non, que je sache, répondit le gardien en se rapprochant avec intérêt. C'était un homme d'une quarantaine d'années, sourcils épais, perruque grisonnante, face enluminée. Un bonnet fourré, enfoncé jusqu'aux yeux, cachait une partie de ses traits. Claudine l'avait à peine observé. « Vous êtes marié, mon ami, » répondit-elle en baissant la voix. « Oui, depuis 10 ans, » répondit le gardien. « Vous avez des enfants ?»« Oh, j'en ai 5. Et combien gagnez-vous ici ?»« 600 livres. » « Et vous êtes bien occupé ?»«
Oui, toute l'année, fêtes et dimanches, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. »
« Mais si vous tombiez malade ?» Le gardien remua tristement la tête.
« Bon, si je tombais malade, répondit-il, on me mettrait à la porte, et je serais réduit à la plus affreuse misère. »«
Triste métier, ah, qu'il dites-vous » Il y eut un silence. Claudine se pencha vers son interlocuteur. « Vous n'avez jamais songé à quitter la partie ?» dit-elle à voix basse.
« Quitter la partie, » repartit le gardien. « Est-ce possible? Qui nourrirait mes enfants ?»«
Si on vous faisait riche. »«
Qui cela ?»«
Moi ?»«
Vous avez donc de l'argent ?»«
Assez pour vous rendre votre indépendance et assurer l'avenir de vos enfants. »«
Dites-vous vrai ?»«
Sur ma vie. »«
Et vous le ferez ?»«
À une condition. » La physionomie du gardien changea tout à coup d'expression. De souriante qu'elle était, elle devint soucieuse et sombre.
« Au fait, c'est juste, » dit-il avec dépit. « Je pensais bien qu'il devait y avoir quelque chose là-dessous. »«
Cela te va-t-il ? » répliqua Claudine sur un ton plus familier.
« Oh, dame, c'est selon. »«
Je t'offre 10 000 livres. »«
C'est un chiffre, mais... » Si je risque ma tête à ce jour-là,
tu ne courras aucun danger.
Et de quoi s'agit-il ?
De Dubosc. Il est condamné. On doit l'exécuter après-demain. Et quand le bourreau ira le chercher, je veux qu'il ne trouve personne.
Le gardien haussa les épaules. « Oh, ça, c'est tout bonnement de la folie, » dit-il brusquement. « Vous savez bien vous-même que c'est impossible. »«
Mais qui sait ?»«
Mais le moyen !»«
Mais il est trouvé. »«
Oh, je serais curieux. »«
Écoute, tu peux pénétrer dans le cachot de Dumas, n'est-ce pas ?»«
Bon, comme je pénètre dans celui-ci, c'est-à-dire avec une cruche. »«
Bien, c'est ce qu'il faut. »« Dès ce soir, tu te rendras à sa cellule. » Mais dans la cruche que tu lui laisseras, tu auras eu soin d'introduire préalablement un costume de gardien.
Tiens, tiens, c'est une idée.
Tu comprends?
Oui, parbleu, seulement le costume ne suffit pas pour ouvrir les portes de la prison.
Peut-être.
Comment?
Et si dans l'une des poches du costume... On avait, par mégarde, oublié les clés principales de la prison. Crois-tu que Dubosc ne saurait les y trouver ?
Le gardien se renversa en arrière avec admiration. « Ma foi, dit-il, pour une idée, voilà une fameuse idée complète.
Consens-tu ?
Mais les 10 000 livres.
Dubosc, une fois dehors, je t'indiquerai l'endroit où tu les trouveras.
C'est donc une cachette ?
Oui, une cachette dans la forêt de Sénart.
Ma foi, je fais peut-être une sottise, mais vous me tentez.
Et tu le feras ?
Bon, je le ferai.
Bien, bien. Bon, sois certain que tu n'auras pas à te repentir de ce bon mouvement, et que le sort de ta femme et celui de tes enfants seront à jamais assurés.
La nuit que Claudine passa à la suite de cet entretien, fut pleine de rêves enchantés. Chapitre 59. L'expiation. Dubosc avait réussi souvent à s'évader avec des moyens bien moins sérieux que ceux de Claudine, et elle ne doutait pas qu'il ne parvînt encore cette fois à tromper la vigilance de ses gardiens et à reconquérir sa liberté. Le lendemain se passa dans la même disposition d'esprit. Elle ne revit pas celui dont elle avait acheté le concours, mais son absence ne lui causa pourtant aucune inquiétude. Elle pensa avec raison qu'il était occupé ailleurs, et elle lui suggérait même de s'être consacré tout entier à l'œuvre de délivrance qu'il avait promis d'accomplir. Toutefois, quand la nuit vint, une émotion indicible s'empara de tout son être, et elle ne put s'empêcher de frémir en songeant que quelques heures seulement la séparaient du jour fatal, et que le moindre obstacle avait pu renverser tout son espoir. Ses appréhensions la tinrent éveillée jusqu'à l'aube. Quand le jour parut, elle courut à la porte de sa cellule et prêta l'oreille. On n'entendait rien au dehors. Dubosc était-il libre? Avait-il réussi dans l'évasion qu'il avait dû tenter? Elle n'osait appeler ni interroger personne. Tout à coup, elle frissonna. Un bruit avait frappé son oreille. Elle retint son haleine et écouta. Les gardiens allaient et venaient ou changeaient les sentinelles. Quelque chose d'extraordinaire se passait. Mais quoi? Claudine eut donné tout son sang pour qu'on lui dît la vérité. Son attente ne fut pas du reste de longue durée. La porte de la cellule venait de s'ouvrir et elle aperçut un peloton de soldats rangés dans le corridor. On venait la chercher. Elle ne fit aucune résistance. Seulement, son regard chercha ardemment autour d'elle le visage de son gardien. Il n'était pas là. À sa place, tenait un homme dont l'aspect la glaça. Firmin. Mais comment se trouvait-il là? Elle savait bien qu'il n'avait été que blessé, mais que venait-il faire à 7 heures dans son cachot? Elle se sentit froide au cœur. Et en le regardant avec attention, elle lui trouva une certaine ressemblance avec son gardien. Mais elle eut peur de trop approfondir ses soupçons. Dans la cour de la prison, on l'attacha par les mains derrière la fatale charrette et le cortège se mit en marche. Le trajet n'était pas long. 10 minutes après, on arrivait sur la place du marché et Claudine était rivée au carcan. Il y avait foule. La foule ne manque jamais en de pareilles circonstances. On entourait le pilori, les spectateurs s'excitaient l'un l'autre, et chacun à son tour jetait à la misérable qui était là des injures grossières ou des rires idiots. Claudine ne répondait à rien, ne voyait rien, ne sentait rien. Elle était devenue muette et sourde. Elle pensait à Dubosc. Où était-il à 7 heures? Devait-elle espérer? Avait-il réussi à s'évader? Le doute était horrible. Parfois, son regard plongeait dans les flots tumultueux qui battaient l'estrade, comme s'il y eût cherché le mot qui devait la rassurer. Parfois encore, ce regard, incertain et vague, interrogeait l'horizon, et à voir le mouvement qui régnait de toutes parts, l'agitation dans les rues, la curiosité aux fenêtres, elle se demandait si c'était elle seulement qui troublait si profondément le calme habituel de la ville royale. Il y avait 2 heures déjà qu'elle était ainsi exposée aux insultes de la place publique, et elle commençait même à s'y habituer. Quand un mouvement de la foule attira son attention et vint la tirer de sa torpeur, ce n'était rien, pour ainsi dire, une sorte de remous dont l'effet se fit d'abord sentir faiblement autour d'elle, mais duquel se dégagea bientôt une rumeur confuse qui éveilla un sinistre écho dans son cœur. Elle releva la tête, ses sourcils se contractèrent, et elle regarda, ardente, fiévreuse, haletante. Dès le premier moment, elle ne comprit pas bien. C'était bizarre, inexplicable, insensé. L'errance s'éclaircissait peu à peu. Le collier vivant qui enserrait le pilori s'égrenait insensiblement, et bientôt il ne resta plus alentour que quelques curieux obstinés qui hésitaient à lâcher prise. À un moment, l'un de ces derniers se tourna vers son voisin le plus proche qu'il tenta d'entraîner. « Viens-tu ? » dit-il au bourgeois indécis. « Mais nous allons nous faire écraser, » répondit l'autre. « Bon, » répliqua le premier, « qui ne risque rien ne voit rien. » « Mais tu y tiens, me parbleu, allez, nous avons assez vu la femme, maintenant c'est au tour de l'homme. » Claudine ressentit comme le choc d'une commotion électrique, et malgré elle, dirigée par une volonté autre que la sienne, son regard suivit le courant qui entraînait la foule. Alors elle vit une chose hideuse. Au loin, à travers les branches d'arbres qui faisaient comme un mouvant rideau devant elle, se détachait sur le bleu du ciel, éclairé par les rayons obliques du soleil, la rouge silhouette de la guillotine. L'effet fut terrible. Un cri rauque souleva sa poitrine. Elle balbutia quelques mots inintelligibles et ferma les yeux pour chasser l'épouvantable vision. Mais la réalité l'avait saisie tout entière. Même dans cette nuit factice, elle revoyait l'horrible spectacle et, défaillante, baignée d'une sueur froide, elle fit entendre un appel désespéré et s'affaissa brusquement sur elle-même. Si les aides du bourreau n'étaient accourues à son secours, elle serait morte étranglée. On la détacha à temps du fatal carcan. Elle ne respirait plus, une pâleur livide couvrait ses traits. Quand on la rapporta dans sa prison, elle était mourante. Tel fut le dénouement de cette vie à deux que Dubosc et Claudine avaient menée si longtemps. À cette heure, Dubosc venait de payer sa dette sanglante à la société et ils étaient séparés à jamais.